20h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Raymond Queneau a osé l'écrire. Regardez les Romains d'un air césarien, les Francs d'un air sournois, les Sarrasins d'un air agricole, les Huns d'un air unique, les Alains d'un air narthe. Dans ce petit inventaire publié dans les Fleurs Bleues, les Alains d'un air narthe sont sans aucun doute les plus mystérieux. Si l'on ne sait que cousins des Sarmates, les Alains auraient pour ancêtre un peuple mythique, les Narthes. Quoi qu'il en soit, toutes ces entités ethniques des steppes d'Asie centrale s'avèrent avoir une ascendance commune, un peuple de cavaliers ayant une réalité historique et archéologique, les Scythes. Loin de Queneau, Georges Dumézil s'était penché sur les Narthes, tandis que Véronique Schiltz s'est vouée aux Scythes, à leur histoire, leur art. Pour évoquer les Scythes, saluer l'œuvre et la mémoire de Véronique Schiltz ce soir, un invité sera au cœur de notre magazine d'archéologie de France Culture, Henri-Paul Francfort. Bonsoir.
Bonsoir.
Membre de l'Institut, directeur de recherche au CNRS, incontournable spécialiste de l'Asie centrale, ancien directeur d'une mission archéologique du même nom, vous avez entre autres fouillé une exceptionnelle tombe gelée, le fameux kourgan de Bérel, dans l'Altaï. Nous en reparlerons. Henri-Paul Francfort, qui sont les Scythes ?
Merci Vincent Charpentier de m'inviter pour saluer la mémoire de Véronique Schiltz, qui était en effet l'incontournable spécialiste du domaine des Scythes, et disons de manière beaucoup plus large qu'elle était spécialiste du monde des steppes dans son ensemble. Les Scythes sont une dénomination un tout petit peu conventionnelle qui est très commode parce qu'elle est connue dans notre monde occidental. Elle dérive du terme skutai qui était celui qu'employaient les Grecs, mais les Perses les appelaient Saka par exemple. Encore une dénomination qui varie selon les lieux et selon le temps. Et les Chinois, dans leur texte, les appelaient les Sai, Sai Ren. Donc en réalité, il s'agit d'un terme qui couvre une réalité vaste, fluide et complexe. Et cette complexité, cette fluidité sont tout à fait au cœur des préoccupations de Véronique Schiltz, à la fois en tant qu'historienne, historienne d'art, et comme spécialiste des littératures de la Russie et de ce vaste monde des steppes.
J'ai parlé des steppes d'Asie centrale. Est-ce que l'on se limite à cette Asie centrale, Henri-Paul Francfort ?
Eh bien, non, précisément pas. Le monde des steppes, pour le dire de façon courte et imagée, s'étend de la mer Noire au fleuve Jaune, si vous voulez, puisque l'on connaît aussi bien des Scythes d'Europe, les Scythes européens, que connaissait principalement Hérodote, même s'il avait collecté dans son enquête des informations sur tous les Scythes et d'autres peuples, les noms sont très très divers, jusqu'à l'Altaï, aux confins de la Chine. Et l'on connaît également des nomades dont les plus célèbres chez nous sont les Huns, que les Chinois appelaient Xiongnu, dont l'archéologie s'apparente, à un niveau de généralité assez vaste naturellement, assez élevé, s'apparente à celle des Scythes. Donc le terme Scythe, dans toute son acception actuelle, historique, couvre une réalité très très diverse et dont la durée chronologique est très longue.
Véronique Schiltz nous a récemment quittés, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, comme vous, Henri-Paul Francfort. Vous l'avez bien sûr très bien connue. Elle était avant tout l'incontournable spécialiste de l'histoire et des civilisations, non pas des Scythes, mais des peuples de la steppe. Elle s'est aussi beaucoup consacrée à la Russie.
Absolument. C'est tout à fait juste. Je suis content, Vincent Charpentier, que vous attiriez l'attention sur ce point, car Véronique Schiltz, entre 1965 et 1967, a été lecteur ou lectrice à l'université de Moscou, et c'est là qu'elle a fait la connaissance de nombreux écrivains et poètes, et notamment celle de Joseph Brodsky, qui a reçu le prix Nobel de littérature en 1987, si ma mémoire est bonne, et dont elle a traduit des poèmes et d'autres œuvres en français. Son attirance et son attention et sa culture, aussi bien dans le monde des steppes que dans le monde de la Russie en général, était très très vaste.
De la littérature.
et de la littérature, absolument, parce que non seulement elle en a traduit, mais elle avait un goût extrême pour la littérature. Il suffit de lire les écrits nombreux, ouvrages, parties d'ouvrages ou articles de Véronique Schiltz, pour se convaincre que la langue, la littérature et la poésie étaient véritablement au cœur, et je dirais même presque au-dessus des approches scientifiques à ses yeux. Lesquelles approches scientifiques n'étaient pour autant pas négligées du tout, car elle possédait à la fois une connaissance très très approfondie et un regard critique et amusé à la fois sur certaines approches scientifiques, un tout petit peu au ras du sol, comme celle des archéologues que nous sommes, que je suis.
Bien sûr, elle a écrit énormément d'articles, aussi des livres très importants. C'est aussi, elle a œuvré aussi pour deux au moins grandes expositions.
Oui, au moins deux grandes expositions, mais plus encore, puisqu'elle avait commencé au musée de Grenoble très très tôt par organiser une exposition sur les peintres avant-gardistes russes, qui était très très rare au début des années 1970. L'exposition la plus célèbre s'intitulait « L'or des sites ». Bon, l'or est incontournable, naturellement, même si Véronique Schiltz le voyait d'une manière très distanciée et avec un certain amusement. « L'or des sites », qui s'est tenu en 1975-1976 au Grand Palais, qui a eu un très très grand retentissement. Le catalogue tout à fait remarquable a été traduit dans plusieurs langues. Une autre exposition, qui s'est d'abord tenue au musée Tchernouski, en 2001, puis à Toulouse, au musée des Augustins, je crois, en 2002. Ça s'appelait l'or, bien sûr, des Amazones, cette fois. Et là,
les
cavalières, voilà. Et là, pour cet ouvrage, les notices, les introductions de Véronique Schiltz sont de petits merveilles, de petites synthèses qu'il faut lire dans leur intégralité.
À deux occasions, j'ai rencontré Véronique Schiltz, la dernière fois en 2001. On l'écoute évoquer dans une archive du Salon Noir les sites assurément des nomades, mais pas pour autant barbares.
Je me garderais bien de désigner les sites comme étant des barbares et je les vraiment définirais comme étant des nomades ou alors des barbares dans le sens grec, mais que tout le monde tend aujourd'hui à oublier. À ce point de vue-là, les nomades, d'abord, ils sont revenus complètement sur le devant de la scène, revenus parce qu'après tout, ils ont déjà été au Grand Palais il y a 25 ans, mais ils sont revenus sur le devant de la scène parce que je pense qu'on vit dans une civilisation où les choses tendent un peu, en effet, à perdre des racines, à se délocaliser, à se décentrer, d'une part. Quant aux valeurs dont vous parlez, je ne pense pas du tout que le monde nomade, synonyme de liberté, c'est sûr, synonyme d'individualisme, je ne le pense pas du tout, parce que je pense que si précisément une collectivité a su vivre en collectivité, respecter les règles de vie en collectivité de façon très égalitaire et somme toute fondamentalement démocratique, même si, comme chacun sait, la démocratie a été inventée par les Grecs. Je pense qu'à cet égard, les nomades ont probablement des leçons à nous donner parce que liberté, oui, individualisme, non, mais au contraire, respect des règles de la vie en société, d'une certaine manière, respect de l'autre, même si de temps en temps, on lui coupe la tête, mais après tout, nos grands-parents baladaient des têtes sur des pics au moment de la Révolution et nous appris à l'école que c'était très bien, donc il faut quand même être un peu indulgent à l'égard de leurs coutumes.
Et les Grecs aussi, malgré tout.
Bien sûr.
Et les Romains.
Bien sûr. Donc, par conséquent, je pense qu'effectivement, les valeurs qui nous intéressent maintenant, c'est peut-être une manière, d'une part, de savoir comment on peut vivre autrement que dans cette espèce de sédentarité dont, pendant des siècles, on a perdu complètement conscience. Donc, d'une part, voir s'il n'y a pas d'autres solutions qui correspondent au monde moderne. Et puis, peut-être aussi, en sachant qu'être sédentaire, ce n'est pas une obligation, mais d'une certaine manière, une des variantes de ce qu'on a si bien appelé l'alternative nomade, c'est aussi mieux nous connaître nous-mêmes. Donc, je pense qu'on a tout intérêt, à l'heure actuelle, à mieux connaître en profondeur ce que ça représente d'être un nomade.
Henri-Paul Francfort, un commentaire sur cette jolie archive.
Très rapidement, merci d'avoir retrouvé cette archive importante. En effet, le monde nomade, synonyme de liberté, Véronique Schiltz a écrit également récemment que dans les steppes, on se trouve face à l'espace, à l'état pur. Donc c'est la liberté, l'ouverture, c'est également une des caractéristiques de son esprit. Mais ça ne veut pas dire du tout, elle l'a très bien dit, un manque de solidarité. Il est absolument certain que dans le monde des steppes, avec les étés torrides et les hivers très très rigoureux, ainsi que certaines difficultés données par la nature, les prédateurs, etc. Si les petits groupes de nomades ne sont pas entre eux totalement solidaires, eh bien ces sociétés ne peuvent pas résister. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont élaboré de grandes hiérarchies de type étatique. Ça, c'est autre chose.
Cavalier nomade du Septentrion, les sites curieusement rentrent dans l'histoire dès le 5e siècle, et cela bien sûr avec Hérodote.
Alors, d'après les sources, y compris Hérodote et d'autres, les sources cunéiformes assyriennes ou rartéennes, on sait que les Scythes ou des gens apparentés aux Scythes sont apparus au Moyen-Orient dès le 8e siècle. Alors, ça, c'est tout à fait intéressant. Étaient-ils nomades? Très, très certainement. Et c'est quelque chose qui s'est produit. Une migration possible au 8e siècle, peu après que l'on ait totalement maîtrisé le nomadisme pastoral monté, c'est-à-dire l'équitation quotidienne, pour se déplacer plus rapidement et pour conduire les troupeaux, ce qui a permis probablement une meilleure exploitation, entre guillemets, pastorale du monde des steppes et une augmentation de la population dans ce domaine.
Henri-Paul Francfort, Véronique Schiltz évoquait Héraclès. Quels sont les liens avec la Grèce?
Les liens avec la Grèce sont importants. Ils sont importants dès le début, surtout dans le domaine européen des Scythes. Vous savez par exemple que c'était des archers Scythes qui faisaient la police sur l'agora d'Athènes. Et que les cités Scythes de la mer Noire, parce qu'il y avait des Scythes sédentaires, hein, il y avait des Scythes d'empire également dans l'empire perse, fournissaient, alors celle de la mer Noire fournissait du blé notamment. Donc il y avait des échanges permanents, on n'ose pas parler véritablement de symbiose, et certaines missions russes, mais aussi françaises et ukrainiennes étudient ces Scythes européens. Au-delà de cela, après l'expédition d'Alexandre, vers la fin du 4e siècle, Le monde grec et le monde scythe sont rentrés encore plus étroitement en contact d'une manière que l'on connaît en partie par les textes, d'une part, et d'autre part, très peu par l'épigraphie, mais surtout par les trouvailles des courganes dans l'Altaï principalement, là où les objets organiques conservent des pièces artistiques qui n'ont pas été préservées ailleurs.
Retrouvons Véronique Schiltz évoquer cette civilisation des steppes.
Évidemment, le terme de civilisation est tellement... vous savez, urbanisme et urbanité ont pris de sens qui, évidemment, sont complètement différents, mais semblent impliquer qu'il n'y a pas d'urbanité sans urbanisme. Et on pourrait aussi dire que quand on habite une maison, on est perpétuellement un demeuré. Donc je suis tout à fait pour le terme de civilisation pour les Scythes, non seulement, bien sûr, à cause de leur art, mais parce que ce que laisse entendre, d'ailleurs, merveilleusement cette exposition et la façon dont elle est mise en acte par des projections de photos qui permettent de décrypter des scènes qui sont quelquefois fort petites sur des objets, c'est que les Scythes connaissaient de la musique, il y a des instruments de musique, c'est que les Scythes avaient une civilisation extrêmement raffinée avec des banquets, c'est que les Scythes connaissaient non seulement leur propre épopée qui, comme elle est restée orale, nous échappe très largement, mais qu'ils avaient intégré l'histoire d'Héraclès par exemple, et qu'ils devaient avoir un surhomme à eux assez proche de l'Héraclès grec, puisque chaque fois on trouve des sortes de passerelles. Il nous est difficile de nous en rendre compte, parce que pour nous, la civilisation, c'est d'abord une affaire écrite, et Dieu sait qu'il n'est pas dans mon propos de dire que la civilisation écrite est à rejeter, mais en même temps, c'est une civilisation pleine et entière, exactement comme par exemple le monde homérique avant l'écriture, avant Homère, c'est aussi une civilisation pleine et entière.
France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier.
Henri-Paul Francfort, une civilisation pleine pour les Scythes, vous êtes d'accord, bien sûr?
Bien sûr, absolument. À l'époque contemporaine, on ne se limite plus à l'existence de l'écriture pour parler de civilisation. Et tout ce qui peut être considéré comme la littérature orale et la mémoire transmise oralement pendant des générations, en sachant d'ailleurs souvent le nombre de générations qui sont concernées, est maintenant reconnu. Donc on peut véritablement parler de civilisation. Les Scythes inscrivaient non seulement dans leur mémoire de génération biologique, je dirais de génération en génération, mais également dans une partie de leur art, ces mythes, ces récits, dont certains, en effet, Véronique Schiltz le soulignait à juste titre, peuvent être apparentés à certains récits mythiques de la Grèce ancienne. Ça, c'est tout à fait exact. La civilisation des steppes remonte peut-être même à une période antérieure à celle des Scythes, à l'âge du bronze. On peut la qualifier sous ce nom-là. Car le phénomène qui ne s'est pas produit ailleurs, dans aucune steppe, ni dans les savanes africaines, ni dans les pampas américaines, ni nulle part ailleurs, c'est qu'il se trouvait un mammifère, le cheval, que l'on a pu domestiquer. Et ça a tout changé, toute l'histoire de l'Eurasie, c'est ce qui fait sa spécificité. Alors, ça ne veut pas dire qu'ailleurs il n'y a pas de civilisation, mais elles n'ont pas connu ce rapport avec le monde animal et le monde naturel qui est vraiment caractéristique des Scythes et qui rentre dans leur littérature.
Henri-Paul Francfort, les Scythes sont des nomades, mais ce sont des nomades territoriaux. Ça, c'est très important.
Alors, ce sont des nomades territoriaux, en effet, bien que les territoires puissent changer quelquefois, à savoir des migrations se sont produites, je vous ai parlé de celle du 8e siècle, on en connaît d'autres qui se sont passées plutôt vers le 2e siècle avant notre ère, où des Scythes et apparentés ont pénétré en Bactriane et en Inde, nous disent les textes et nous racontent également l'art rupestre. Alors les territoires, bien sûr, il existe une territorialité très très forte, ne serait-ce que pour les terrains de paquage, les terrains de parcours des animaux. Et là, les territoires sont très très fréquemment marqués par les tombes, et les Scythes défiaient précisément leurs adversaires, Perses et Grecs, en leur disant « si vous en êtes capables, venez sur nos tombes, venez prendre le territoire de nos tombes ». Donc leurs tombes, leurs courganes sont le cœur de leur territoire de tribus, de confédération de tribus, mais il y a aussi des signes qui sont répartis un peu partout dans le monde des steppes sur des rochers et des stèles, ce sont les pétroglyphes et tous les signes rupestres qui sont répandus, on les appelle parfois des tamgas sur divers supports, mais notamment sur les rochers, de l'Oural et au-delà jusqu'à la Chine.
Véronique Schild, c'est avant tout un regard particulier sur l'art, qui fut d'ailleurs le sujet de son doctorat, de sa thèse de doctorat, Origine et développement de l'art animalier scythe.
Oui, c'est en effet, c'était sa thèse de doctorat, et l'accent qu'elle a fait porter sur l'art, qui se retrouve dans le magnifique ouvrage publié dans l'univers des formes en 1994, qui s'appelle Les Scythes, d'ailleurs, tout simplement, est un ouvrage qui fait une part très très large à l'art, qui est présenté, alors au second degré, bien sûr, comme savait le faire Véronique Schild, avec une sorte de métaphore langagière. Lorsque l'on parle de synecdoque, par exemple, pour une représentation animalière réduite à la tête, à l'œil et au bec.
On l'écoute justement dans une archive sur un art en prise avec la nature.
Je pense que je le définirais surtout comme un art qui partage, somme toute, le même patrimoine religieux avec tout l'ensemble du monde indo-européen, indo-iranien, mais dans un stade extrêmement archaïque et qui s'est différencié de ce monde parce que ces auteurs sont passés au nomadisme, c'est-à-dire que ils ont, en abandonnant les villages, en abandonnant la sédentarité, en abandonnant l'agriculture, abandonné aussi toute la symbolique agraire sur laquelle, finalement, toute notre culture, maintenant encore, repose. Pas seulement parce que c'est l'histoire de Déméter, de Corée, de Perséphone, pas seulement parce que c'est le grain mis en terre qui germe, pas seulement parce qu'on parle d'une culture qui fleurit, qui naît, qui se développe, qui se ramifie. Bref, dans notre vocabulaire quotidien, on a un vocabulaire, Dieu merci d'ailleurs, de paysans et d'agraires, alors que dans le monde des nomades, tout s'est transposé, tout est venu habiter le monde animal, puisque c'était ce qu'ils voyaient, ce qu'ils avaient sous les yeux. Et donc, tout le, par exemple, le symbolisme du renouveau de la vie et de la mort passe par le thème des animaux qui s'entre-dévorent, qui s'entretue par la mort, condition de la vie, exactement comme le grain en terre est la condition de la moisson de demain, l'animal dévoré est la condition de la fécondité de l'avenir.
On répond fort.
Oui, bien sûr. Non, cette description, cette conception du rapport avec le monde animal est tout à fait remarquable. On peut également apporter l'exemple du symbolisme du cerf, pour ce qui est du renouvellement, les bois du cerf qui se régénèrent chaque année, ont fait, et Véronique Schild l'a commenté dans son ouvrage notamment, sont très très importants pour ce symbolisme de la vie, de la mort et de la régénération. Et lorsque ces sociétés de l'Asie des steppes ou de l'Europe des steppes sont passées au mode de vie pastorale nomade, elles ont de manière, on le sait maintenant très très bien, de manière caractéristique, presque, elles se sont détachées de l'art rupestre fixe et narratif qui existait à l'âge du bronze pour se consacrer à un art pratiqué sur des matières périssables, sur ce qu'ils transportaient avec eux, un art corporel comme les tatouages, les vêtements, le tissage, le bois, etc.
On écoute Véronique Schild sur une archive autour du langage animalier.
Comme tout art, l'art des steppes est un système de signes, c'est évident, et une sorte de langue, si vous voulez, une sorte de langue dans laquelle les animaux seraient le vocabulaire, leurs agencements, la syntaxe, et qu'il y ait un langage animalier des steppes qui veuille dire quelque chose, c'est certain. Qu'en plus, les animaux aient un sens encore plus grand parce qu'il n'y a pas d'écriture et que tout ce système d'images se substitue à l'écriture, j'en suis persuadée. Je suis persuadée qu'une civilisation écrite écriture ne met pas dans ses images le même poids qu'une civilisation sans écriture. Donc à cet égard, oui, un système de signes. Maintenant, dans quelle mesure est-ce que ces signes peuvent être correctement interprétés par nous? Ça, c'est encore une autre paire de manches. Mais à l'autre bout de la steppe, du côté de l'Est, il y a une chose tout à fait passionnante, c'est qu'on se rend compte de plus en plus qu'un certain nombre d'images d'époque scythe, et notamment tout ce qu'on trouve dans l'art rupestre, tout ce qu'on trouve gravé sur les rochers, quelquefois est étonnamment proche de certains idéogrammes, pour le coup, pictogrammes et idéogrammes de la Chine contemporaine. Contemporaine des scythes, j'entends.
Henri-Paul Fonfort, c'est vous qui avez justement travaillé sur cet art rupestre des steppes, hein.
En effet, pendant plusieurs années, plus d'une décennie, avec mes collègues d'abord soviétiques, puis russes, kazakhstanais, ouzbeks, kirghizes, nous avons travaillé sur cet art des steppes. Et l'une des caractéristiques, alors ce que dit Véronique Schiss est tout à fait exact, hein, on parlait, ça remonte là aussi à l'âge du bronze. Le pictogramme chinois Shang qui désigne le char représente exactement les chars de la rupestre des cultures d'Andronovo. Mais ce qui est caractéristique à l'âge du fer dans l'art scythe, c'est qu'il n'est pas narratif. Donc ça ne simplifie, les séquences sont très très courtes ou n'existent pas. C'est-à-dire qu'il faut l'interpréter autrement qu'une narration. Et ça rejoint tout à fait le schématisme, je dirais, pour appeler en termes volontairement vagues, le schématisme des arts modernes, de l'art moderne occidental. Et des rapprochements tout à fait éclairants peuvent être faits avec cum grano salis, bien sûr, entre l'art européen très très schématisé, sinon abstrait, et l'art des scythes dans le monde des steppes.
Qu'est-ce que vous avez sur ces rochers? Des animaux aussi, par exemple? Alors, les mêmes que l'on retrouve dans les courganes?
Essentiellement des animaux. Mais à l'époque de l'âge du fer, c'est-à-dire la grande époque des scythes, la grande époque de cette culture dont nous parlerons peut-être un tout petit peu tout à l'heure de Pasiric, hein, notamment, eh bien, on constate un déclin dans les représentations rupestres. C'est-à-dire un type d'art beaucoup plus narratif, anecdotique, sinon narratif, qui existait à l'âge du bronze, tend à disparaître. Sinon, on retrouve les mêmes muraux et les mêmes animaux. Et de manière caractéristique, par exemple, on a en Kirghizie des représentation de panthère dont la queue est figurée d'une manière analogue à celle de pièces d'orfèvrerie de la mer Noire.
Reste la question des origines. Voici le point de vue de Véronique Schiltz.
Je ne pense pas qu'on puisse jamais penser qu'un art a une origine. Un art ne naît jamais. Un art, c'est toujours, à quelque moment qu'on le prenne, le résultat, évidemment, de croisements, de phénomènes, de métissages et de choses comme ça. Ce qu'on peut dire, en tout cas, et qui apparaît de plus en plus clairement avec les toutes dernières trouvailles, c'est que l'art des steppes, sous sa forme la plus pure, entre guillemets, c'est-à-dire la plus dégagée des influences grecques, des influences chinoises et des influences perses, sans parler du fait qu'il y a eu aussi une influence de l'art des steppes sur ces arts-là, mais c'est un autre problème. En tout cas, l'art des steppes à l'état le plus pur, c'est tout de même plutôt à l'est du Don, c'est-à-dire en Sibérie, dans l'Altaï, qu'on le trouve, et probablement d'ailleurs, on continuera, j'en suis pour ma part persuadée, par exemple, à en trouver des exemples plus au sud, y compris jusque dans les fouilles qu'on a commencé d'entreprendre dans le Xinjiang, dans le Taklamakan, etc.
Le Taklamakan, voilà une région que vous connaissez bien, Henri-Paul.
Oui, mais avant de nous enfoncer dans les sables du Taklamakan, ce que je pourrais dire, c'est qu'il y a des découvertes très, très, très récentes qui ont été faites dans la région de l'Altaï, en Touva, notamment le Kourgan d'Arjan numéro 2, qui date des environs de 600 et où la tombe était intacte. Et là, l'art des steppes s'y trouve en or notamment, ce qui fait qu'il est parfaitement conservé, où l'on voit que le Moyen-Orient n'intervient absolument pas. Donc, ce que dit Véronique Schiltz, et qui était également ce que pensait, par exemple, Mikhail Gryaznov du musée de l'Ermitage, sur l'origine en Orient, en Asie centrale, dans les régions de l'Altaï, de l'art des steppes, au sens art scythe, est tout à fait exact. Ça s'est trouvé confirmé de façon tout à fait éclatante. Quant au Taklamakan, eh bien, le Taklamakan se trouve dans l'ère d'expansion de ce type de culture et de civilisation.
On est en pays ouïghour, c'est bien ça?
Oui, on est en pays ouïghour, dans la République populaire de Chine. Le Taklamakan est un désert qui est grand comme deux fois la France, et l'on y trouve des restes à la fois de culture nomade et de culture sédentaire, ce qui ne veut pas dire que les sédentaires étaient forcément de grands agriculteurs. On peut être sédentaire et élever des animaux en les nourrissant de roseaux, d'herbes et autre chose. Et là, dans le Taklamakan, on a découvert par exemple de l'art scythe, de l'art des steppes, mais comme il n'y a pas de rochers, eh bien, il a fallu aller le chercher sur des objets en bois, sur lesquels les sujets animaliers étaient gravés soigneusement ou sur des broderies et des tissus. L'exploitation du milieu et la manière d'utiliser les matières premières variaient pour des thématiques qui étaient souvent les mêmes. Donc les scènes, par exemple, de combats d'animaux, de prédation, hein, c'est-à-dire où un félin se jette sur un malheureux herbivore, se retrouvent gravées sur du bois dans le Taklamakan.
Qu'en est-il des fameux kourganes, ces étonnantes tombes, parfois gelées? Henri Paul Francfort, en 2001, Véronique Shields commentait une récente découverte.
On a trouvé en effet, cet été, là au mois de juillet, justement tout près du kourgan d'Arjan 1 auquel je faisais allusion tout à l'heure, ce qu'on a baptisé maintenant le kourgan d'Arjan 2. Et là, on y a trouvé, pour la première fois, une tombe absolument intacte, non pillée, où gisait un homme dans une double cage en bois à la manière de l'Altaï, donc au cœur de la Sibérie. Gisait un homme et une femme absolument couverts d'or, puisque sur leur corps, on a retrouvé les bractées de leurs vêtements et qu'on trouve 5000 images, 5000 petites bractées, 5000 petites appliques représentant des panthères, puisqu'ils sont dotés de torques et de colliers, de coiffures également couvertes d'or, et que l'homme, ou peut-être la femme d'ailleurs aussi, en tout cas ils sont accompagnés d'armes, et ça c'est très intéressant, d'armes en fer. Pourquoi le fer? Parce que c'est un moment où le fer est beaucoup plus chic et beaucoup plus précieux et beaucoup plus rare que le bronze, puisque dans l'état actuel des choses, mais il est beaucoup trop tôt pour faire autre chose que de reprendre la datation proposée par nos collègues, il semble que ce kourgan soit certainement pas postérieur au 5e et peut-être même du 6e avant Jésus-Christ. C'est donc une trouvaille extraordinaire. J'ai entreaperçu quelques images. C'est des images absolument nouvelles et ça va certainement tout à fait secouer nos conceptions sur l'origine de l'art animalier des steppes.
Henri-Paul Francfort, les Russes auraient encore trouvé plus vieux, une sorte de kourgan encore plus vieux?
Alors, le kourgan d'Arjan 1 avait été trouvé antérieurement. Alors, lui était plus ancien, puisque celui dont Véronique Schitt vient de parler date des environs de 600 avant Jésus-Christ. Et le kourgan d'Arjan 1, fouillé par Mikhail Gryaznov, dont je viens de parler, lui daterait de 800 environ. Donc, c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Et là aussi, à la fois sur une stèle gravée et sur quelques objets qui n'était pas en or, parce que s'il y avait de l'or, tout avait été pillé, tout avait disparu. On retrouve de l'art des steppes parfaitement constitué, c'est-à-dire de ce style animalier. Ce grand kourgan d'Arjan 1, lui, possédait 100 chevaux sacrifiés au moment de l'inhumation de ce grand chef.
Alors vous avez fouillé un kourgan absolument aussi extraordinaire, celui de Bérel, numéro 11, avec ses chevaux, avec sa tombe?
Oui, alors les kourganes, dans une hiérarchie sociale simplifiée, peuvent se classer selon le nombre de chevaux sacrifiés, par exemple. Donc le premier kourgan d'Arjan en comptait 100, il y en avait 13 dans le kourgan 11 de Bérel. Et ce qui est intéressant, c'est que la glace, comme à Pasirik, permet de conserver les matières organiques. Alors aussi bien donc les tissus, le bois. Et cette découverte, qui est toujours en cours d'étude et de publication, nous a permis de remettre en perspective à la fois la chronologie et les interférences, les interactions entre le monde des steppes et celui des Achéménides et des Grecs.
Nous n'aurons pas le temps, mais en deux mots, les chevaux étaient parés, étaient grimés?
Alors les chevaux portaient des sortes de masques, c'est-à-dire qu'ils portaient des coiffures en forme de cornes en bois doré, fixées avec des lanières de cuir. Et ces chevaux qui imitaient des bouquetins ou voulaient remplacer des cerfs étaient des animaux sans doute psychopompes, c'est ainsi qu'on les interprète. Mais dernièrement, les trouvailles des kourganes gelés ont apporté énormément d'informations sur les rapports, aussi bien avec le monde chinois, ses miroirs, ses soieries, qu'avec le monde grec à des époques plus récentes, le monde gréco-romain, et même avec Palmyre.
Henri Paul Francfort, merci beaucoup. Et puis, je remercie bien sûr aussi l'Institut et l'Académie des inscriptions et belles lettres pour son concours dans cette émission. Carbone 14 était réalisé par Doria Zénine, à la technique Valérie Lavalard, et bien sûr, avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives sur le site inra.fr. La semaine prochaine, le magazine d'archéologie de France Culture sera consacré au Kurdistan irakien.